Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer cette séance du conseil municipal aujourd'hui, donc 19 octobre. Mais peut-être ce que je vous propose avant qu'on entre dans l'ordre du jour et les affaires, c'est qu'on respecte ensemble une minute de silence. Malheureusement, le contexte est vraiment extrêmement lourd, dramatique. Ouais. On a eu il y a 3 ans l'assassinat de Samuel Paty. On a malheureusement connu un deuxième assassinat d'enseignant, donc Dominique Bernard, à Arras. On pense de façon extrêmement solidaire et en soutien à toute la communauté éducative. Il y a Corinne qui est ici présente, mais à l'ensemble de la communauté, je sais qu'on le sait tous, relève la tête, quand même, il faut le dire. Il n'y a pas de démission, il n'y a pas d'abandon, il y a des moments de sidération, il y a des moments de grands questionnements aussi, j'imagine, c'est sûr. Mais,
de la colère aussi.
De la colère, oui, je pense, oui. Mais une grande fierté qu'on peut avoir, je pense, vraiment vis-à-vis de notre communauté éducative. Donc vraiment un soutien. Je pense qu'il faut qu'on exprime au travers de cette minute de silence en solidarité avec, bien entendu, la famille, les amis, les collègues de Dominique Bernard. Mais je souhaite ajouter aussi une minute de silence pour tous les morts civils, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, de jeunes qui n'ont malheureusement... rien à voir avec les terrorismes en tout genre et les extrémismes en tout genre qui malheureusement se rencontrent sur des territoires si proches et si lointains et si proches en même temps que nous. On est tous très proches. C'est le Proche-Orient, mais on est vraiment en grande proximité avec ce qui se passe malheureusement et en Israël et en Palestine. Et que voilà, on espère que la raison l'emportera au plus vite, que des erreurs du passé ne seront pas à nouveau commises, parce qu'on sait qu'on est au bord d'un gouffre, au bord d'un cercle vicieux qui peut nous emmener dans des dégâts humains extrêmement incommensurables. Donc voilà, solidarité, je pense aussi avec toutes les familles, avec tous les qui vivent vraiment très durement ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Mm. Et si vous êtes d'accord, on garde une minute de silence. Merci. C'est vrai qu'entre la solidarité, les événements naturels, les catastrophes naturelles qu'on a subi, tout ce qu'on soutient aussi comme au travers de la SOS Méditerranée, je pense qu'on pourra bientôt vous en parler avec Claudine, mais qu'on soutient tous les drames qu'on vit aussi de façon très proche dans la Méditerranée. Voilà, ce qu'on vit maintenant, on n'est pas dans des périodes très... Alors, donc on va passer à la séance du conseil. Donc je commence par l'appel. Donc Isabelle Toussard, présent. Gilles Cousin.
Présent.
Juliette Paproki,
présent.
Gilles Chico.
Oui, présent.
Alors Séverine Ségissement, absente, a donné un pouvoir à, Gilles Cousin. Corinne Durand.
Présente.
Mélanie Arnal. Alors absente, donner pouvoir à Claudine, c'est ça, Julia. Hélène Bonnet-Cuel.
Présente.
Dominique Baril.
Présent.
Guillaume Garcin.
Présent.
Laurent Mayou.
Présent.
Jean-Claude Mouret.
Présent.
Claudine Moya.
Présente.
Patrick Ortigosa est absent. Véronique Pomared donc, a donné pouvoir à
Corinne Durand.
Mmh. Laurent Prat, absent, a donné pouvoir.
Essaye.
Laurence Rousseau.
Présente.
Et Bernard Sénot.
Présente.
Le quorum est atteint, donc on va vraiment délibérer. Donc, qui peut bien être secrétaire de séance?
Moi, quand j'aurai fini tous mes papiers.
Merci, Claudine.
Merci.
Non, de rien, de rien. Je vais en 19.
Donc, on passe à l'approbation de l'ordre du jour. Donc, dans l'ordre du jour, comprend 5 affaires. Je pense que les yeux. C'est 5, hein. Voilà. 5 affaires à l'ordre du jour. Je vais donner au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité.
Voilà.
C'est mieux, c'est le signe.
Ben voilà. C'est d'accord.
Et donc, on commence. Le premier point, donc, c'est l'approbation du compte rendu du 19 septembre 2023. Est-ce qu'il y a. Vous avez été envoyé donc, par Renaud. Est-ce qu'il y a des observations? Il a été envoyé par mail, par contre, il n'a pas été réimprimé, je crois. Il vous a été envoyé par
oui,
mail.
Oui,
je pense. Si vous avez, on ne l'a pas réimprimé. Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc on passe à la première affaire. Alors, en l'absence de Séverine, je vais présenter donc, la première affaire. Donc, c'est une décision modificative au budget. Moi, j'aurais besoin de l'aide de Renaud parce qu'il y a des écritures comptables particulières. En gros, avant de rentrer dans le détail des modifications par ligne, enfin, par chapitre, en fonctionnement et en investissement, on va dire que ce qui est à l'origine de cette décision modificative, c'est une nécessité d'augmenter substantiellement, beaucoup, le chapitre 012 qui correspond à la masse salariale, notamment, essentiellement la masse salariale, si on va dans le détail, non titulaire, donc contracteur. Parce qu'on a eu en fait, en cours d'année, alors peut-être une sous-estimation hein, en début de budget, mais on a eu énormément de remplacements à faire. Au niveau, que ce soit du service technique ou du service enfant de jeunesse, voire même des remplaçants de remplaçants. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ça c'est un principe qu'on a jusqu'à présent, qui peut être questionné, c'est qu'on fait la subrogation systématique. Donc ce qui fait que derrière cette augmentation en dépenses, il y aura une augmentation, on sera remboursé en partie, hein, en recettes, mais pas en partie.
Ouais, ça dépend.
Et ça dépend des cas de figure.
Au-delà de 15 jours.
Voilà, pour les absences qui vont au-delà de 15 jours. Parce que vous savez que dans notre convention, avec notre assurance statutaire, on est remboursé pour les absences à partir de au-delà de 2 semaines d'absence. Et donc on a beaucoup d'absences, beaucoup d'absences pour soi-même des remplaçants de remplaçants. Et aussi on a une politique du fait qu'on a beaucoup de CDD, notamment au centre de loisirs, et c'est une politique qu'on a eue hein, de privilégier les contrats plutôt que les vacations, mais de ce fait beaucoup aussi de précarité, de primes de précarité. Et donc on est dans une situation qui est un peu non inédite jusqu'à présent, quand même. On a toujours une décision modificative à faire en fin d'année pour réévaluer l'enveloppe, la ligne salariale, mais là elle est de 90 000 euros. Donc on a aussi ce qu'il faut voir, un autre élément, mais ça m'explique en partie, c'est qu'on a une ASVP qu'on a depuis 6 mois et une ATSEM en plus contractuelle hein, à la maternelle. Donc il y a mon SVP, ça c'était un choix politique, mais c'est que sur 6 mois, elle n'est arrivée que aujourd'hui. Et la TSEM, cette année, donc elle est là depuis la rentrée, mais l'année prochaine, elle sera là, on devrait l'arriver toute l'année. Donc il y a une cumulation de beaucoup de petites choses, on dirait, Mais au-delà de ces emplois qui étaient prévisibles, hein, qui ont dû être prévus d'ailleurs au budget primitif, ce qui est venir n'était pas prévu, c'est toute cette masse de remplaçants. Voilà. Donc, vous voyez, c'est surtout sur la ligne contractuelle, hein. C'est pas sur la ligne des titulaires qu'on a. Au niveau des fonctionnaires, on peut absorber tout ce qui est. Parce qu'il y a les augmentations liées éventuellement aux augmentations de l'indice, mais il y en a un petit peu cette année. Est-ce qu'il y a des. Alors, donc, du coup, pour pouvoir. Faire cette décision modificative. Comme on a une dépense en plus de 90 000 euros qu'on doit faire, il va falloir que vous m'aidiez, Renaud, parce que c'est très compliqué.
Ouais. Non, en fait, du coup, donc, il y a 90 000 euros à mettre en plus en dépense de fonctionnement. Donc en fait, alors comment on fait pour trouver 90 000 euros ? On en enlève 45 000 qui partent de la section de fonctionnement à l'investissement. Donc on réduit de 45 000 euros le budget prévisionnel en investissement. Et pour l'autre moitié, donc 45 000 euros, 44 674 si on est précis. En fait, donc ça c'est une écriture, donc c'est une opération d'ordre où on valorise les travaux en régie. C'est-à-dire les réalisations des services techniques sur les bâtiments communaux. Donc les 90, en fait, ils sont compensés. Donc l'augmentation de 90 est compensée à la fois par une diminution virement à l'action d'investissement et une augmentation, donc une nouvelle recette, parce que c'est une recette d'ordre, mais c'est quand même une recette avec les travaux en régie. Ce qui a pour conséquence la section d'en bas. Du coup, comme on touche à ce qui va vers la section d'investissement, après, la conséquence, c'est qu'il se passe pas mal de choses en investissement, entre guillemets, puisque du coup, les travaux en régie, par exemple, donc comme c'est une opération d'ordre, vous avez une recette en fonctionnement qui devient une dépense en investissement. C'est le principe des opérations d'ordre, c'est des opérations croisées. On a une dépense de plus 44 674 en investissement. Et en investissement, on enlève en plus les 45 326, donc le virement de la section de fonctionnement. Donc on doit enlever encore 90 000. Donc, là, et donc on a enlevé 90 000 en les répartissant, donc moins 35 000. Au chapitre 20, donc les études, et moins 54 350 au chapitre 21. Parce qu'en fait, quand on fait une opération, quand on fait une décision modificative, il faut que ce soit équilibré à l'intérieur des sections et il faut que ce soit équilibré entre sections. Donc, c'est-à-dire il faut qu'au niveau global du budget, que ce soit équilibré au niveau global. Donc voilà, donc, c'est le mécanisme que vous avez là.
Alors pour compléter, on a vu ça avec en regardant un petit peu tout ce qu'on a engagé, on avait engagé, enfin, prévu en 2023, mis en budget d'investissement en 2023. Et pour les études, vous voyez, il y avait 110 000 de prévus, on enlève 35 000. Bah, de toute façon, les 110 000 euros prévus en études, on ne les dépense pas en 2023. Donc je veux dire, on se prive pas en 2023 de ces études, parce que de toute façon, donc on les fera en 2024. On avait prévu une grosse enveloppe d'études avec notamment toute la maîtrise d'œuvre des écoles et tout, qui ne sera, dépensée qu'en 2024, de toute façon.
Bon, on a estimé.
Oui. Ouais.
Il reste quoi ?
D'ici décembre, on ne dépensera jamais les 110 000 euros d'études.
Ah non, on n'est pas prévu le budget, oui. C'est la phase de conception.
C'est ça.
On n'a pas cette facture encore, mais je pense que.
Voilà.
Oui, c'est vrai. Ouais,
donc en tout cas, cette enveloppe, elle était elle ne sera pas consommée, je dirais. Et au niveau autre bâtiment, chapitre 21, là où il y avait 130 000, donc on ne garde que 75 000. Là pareil, on est en capacité avec 75 000 de mener la quasi-totalité des travaux qu'on avait prévus sur les bâtiments. Travaux, je ne sais pas tous en tête, mais disons que ça ne nous freine pas dans nos investissements prévus en 2023. Mais il reste que, quand même, au final, cette mauvaise nouvelle va se traduire par un résultat en fonctionnement qui sera quand même un peu moins élevé que ce qu'on espérait. Donc la bonne dynamique qu'on avait en 2022, elle va être un peu freinée à nouveau en 2023. On n'a pas encore la vision, on travaille à élaborer un pré-budget prévisionnel 2024. Il nous manque encore des informations, hein, pour voir. On n'a pas toutes les données en main. On a aussi une autre, on ne vous en parle pas maintenant, enfin on peut en parler maintenant, c'est pas dans la main, parce que ça n'a pas d'incidence directe, mais on avait prévu une recette de l'État dans le cadre du bouclier tarifaire, enfin pas bouclier tarifaire, mais c'était une aide exceptionnelle qui avait été prévue anti-inflation pour les communes. Et on vient de recevoir la réalité des chiffres, et c'est moins ce qui était annoncé. Et on demande même de reverser quelque chose.
Voilà. Les 90 000 l'année prochaine, est-ce qu'on risque de retrouver le cas?
Alors, là, on ne peut pas enrayer ça.
En fait, c'est pas de contrat, c'est de personnel, en fait, tu risques de croiser le.
Nous, on a commencé à réfléchir un petit peu à comment on pouvait, tout en garantissant toujours une politique de rémunération de nos contractuels, on ne pas créer de précarité, mais comment on pourrait trouver une solution qui quand même ne compte pas comme ça au niveau budget. Donc, il y aura une commission du personnel, on sera réunie pour ça, pour voir comment il faut qu'on prépare toutes les propositions. Pour essayer d'endiguer des explosions comme celle-là en cours d'année. Quoi.
Parce que dans la discussion, on mettra la subrogation.
Voilà, ouais. Par exemple, la question de la subrogation. Ça, c'est la question. Est-ce qu'on continue à faire cette subrogation? C'est très rare d'avoir des situations. Voilà, en général, quand on est malade, c'est la sécu qui prend le relais. Quoi. Et donc ça, par exemple, c'est sûr que ça nous fait une gonfle énormément le poste de dépense. Surtout qu'on a une masse salariale contractuelle qui est quand même importante. C'est une des mesures possibles, mais il y en a sûrement d'autres. On va essayer de les travailler pour à la fois continuer à bien garantir la continuité de service, garantir quand même une rémunération au niveau des employés contractuels. C'est réfléchir.
Et si le personnel non contractuel, il relève du régime général?
Oui. Les
fonctionnaires. Le régime général aussi. Non, les non-contractuels. Les non-titulaires. Oui.
Ah, ils sont de droit.
C'est de droit privé.
Ah, oui.
Ouais.
Enfin,
non, c'est de droit public.
Enfin, c'est des comptes, oui, mais après, pour la rentrée, tout ça, c'est.
Oui, c'est comptabilisé.
Pour les 3 jours de garantie du régime général.
Ah, ok.
Est-ce que ça peut modifier un peu la
pensée de. Oui. Ouais, je pense que oui, je pense que pour la Sécu, c'est.
Ils seront soumis à cette carence.
Je pense, je ne suis pas sûr à
100%,
mais il me semble que.
Dans le public, voilà,
ça c'est.
Non.
Si.
Oui, c'est ça. Hein, oui.
Ah oui,
c'est ça.
Oui, on a un jour de carence.
Un jour. Non, mais pour les privés, c'est trois.
Pour les privés.
Avant, vous n'en aviez pas. Après, il y en a eu un. Et dans le privé, c'est trois.
C'est pas non plus aujourd'hui. L'idée n'est pas de prendre des décisions, mais c'est de montrer comment. Voilà, mais tout ça, c'est des éléments qu'il va falloir qu'on regarde, mettre dans la balance, c'est des éléments de réflexion pour prendre une décision.
Oui, non. Par contre, sur le calendrier des discussions et des mesures à prendre, si on veut que ça s'applique en 2024,
il faut le faire.
Il faudra une délibération du conseil avant.
Ça dépend, il y a des choses.
Sur la subrogation, par exemple.
Ça, c'est une décision du maire. On décidera ensemble, mais ce n'est pas obligé de
délibérer. D'accord, c'est ça la question.
C'est des décisions.
S'il y a des décisions qui sont prises, autant les appliquer au plus vite.
Oui, bien sûr. Non, l'idée, c'est de repartir pour l'exercice 2024 avec des
nouvelles du jeu. Il va falloir discuter.
Oui. Ça veut dire que la commission, il faut qu'on la réunisse fin novembre.
Je vous dis, j'ai une urgence. Ma compagne a un décès dans sa famille.
Ah mince, désolé.
Non, c'est pas. Voilà, mais du coup, je
Bah, ouais. Est-ce que tu laisses pouvoir du coup oralement à quelqu'un?
Je peux.
Même si, est-ce que c'est possible?
On peut dire que oui. Hein.
Oui,
très bien. Bien, je vais laisser pouvoir. Hélène Bonnecœur.
Ah, Hélène Bonnecœur, d'accord.
Faut que je signe quelque chose?
Est-ce que juste adopter le. Tu pourras le faire après. Là, on sait oralement que tu as donné le pouvoir à Hélène. On pense juste peut-être à l'adoption de cette décision modificative, comme ça tu peux partir après.
Oui, bien sûr.
Avant qu'il y ait d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci Guillaume.
Merci beaucoup.
Bon courage. Bon courage à vous. Alors on passe à l'affaire suivante. Donc là du coup c'est moi aussi qui l'ai fait, j'ai proposé Gilles. Donc vous savez, la commune est déjà engagée dans les questions d'économie d'eau, hein, dans le contexte qu'on a connu cette année et l'année dernière. De plus en plus de communes comme la nôtre se posent la question de la gestion de la ressource en eau, notamment pour boire, hein, l'eau potable, mais aussi l'eau brute pour arroser, pour irriguer. Donc nous, on est déjà engagé, la commune, sur notre propre patrimoine, sur nos propres bâtiments, à faire des économies d'eau. Dans le cadre du label de l'Agence locale de l'énergie et du climat, ma commune économe en eau, on est déjà à la deuxième goutte, et on progresse, il y en a trois au final, avec des économies d'eau très, très significatives. Et donc en fait là, cette affaire concerne une charte départementale qui est proposée par le département et l'Association des maires de France de l'Hérault, l'ANF. Donc c'est une charte qui vise à ce que les collectivités s'engagent pour les économies d'eau. Donc il y a notamment, et ça il y a eu un audit qui a été fait au niveau interministériel suite aux épisodes 2022-2023 qui ont montré qu'il y avait une très mauvaise coordination entre les communes, les syndicats d'élection d'eau potable, etc., et l'État pour gérer les crises. Parce que ce qui nous menace, c'est carrément une coupure d'eau au robinet. On est clair. Ça, c'est le sujet numéro un, c'est l'eau potable. Et donc, il y a besoin d'avoir une relation extrêmement étroite avec les services de l'État, l'AMF, les collectivités, etc., les régies des eaux, dès qu'on a des difficultés, qu'on pense qu'on peut subir des problèmes d'approvisionnement en eau. Le deuxième sujet, c'est de faire des plans d'économie en eau les plus poussés possibles. Je pense que nous, côté collectivité, on est déjà bien engagés. Hein. On a fait des choix, par exemple d'arrêter d'arroser stade, des choses comme ça. Quand il n'y avait plus d'eau au forage. De travailler avec la population, d'inciter la population à faire des économies d'eau, de relayer tout ce qui va être information, alerte, etc. De s'assurer de la mise en œuvre quand il y a des arrêtés préfectoraux. Alors notamment c'est la police de l'eau qui fait ça, hein, n'est-ce pas Dominique?
Oui.
Mais aussi de relayer. Et nous, on peut aussi, au-delà des arrêtés préfectoraux, si localement on estime que la situation est vraiment critique, on peut aussi mettre des arrêtés encore plus restrictifs. Il faut savoir. Désigner un référent. Et donc là, moi, je propose Gilles Cuzin, parce que c'est Gilles qui suit tout ce qui est le lien avec le SBL et avec la régie de l'eau. Il y a aussi Dominique qui suit ça, mais là, c'est plus, on est vraiment beaucoup dans l'entrée d'eau potable, plutôt que penser de l'eau. Et puis voilà, et puis faire tout le lien avec l'AMF, etc. Donc ça, c'est une charte qui de plus en plus, qui a été, donc il y a eu un engagement avec présence du préfet, j'étais présente quand... c'était où déjà? Au projet. À Villerac. Où il y a eu cet engagement, et puis maintenant, il y a beaucoup de communes dans les routes qui s'engagent et qui s'engagent à signer la charte. Voilà.
Il n'y a aucun moyen de contrôler la consommation d'eau, mais vous êtes là.
Alors,
nous, non. Mais la régie aujourd'hui, avec les services, ouais. avec la télé-relève, a les consommations.
Ah, oui. Est-ce qu'elle les communique de façon globalisée avec nous ?
Globalisée, oui, on connaît le volume. Ouais. On connaît le volume, parce que c'est le volume qui est acheté au SBL, parce que ça, on l'achète en brut. Donc ça, on le connaît. On connaît le volume, on connaît aussi les pertes aujourd'hui. Mmh. C'est là au-dessus qu'il y a un travail qui est fait par la régie, entre autres, pour rattraper un peu le retard que le SBL avait pris pendant des années à ce sujet.
Sur les fuites ?
Oui, les fuites dans le village. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je parle de certains endroits, vous voyez la régie de l'eau, depuis qu'on est passé à la régie de l'eau, ils sont souvent avec des camions, ouais. avec des écouteurs. Mmh. Et là, en ce moment, il y a des tranchées un peu partout. Hein. Mmh. Rien que sur la Rouvière, il y a eu deux tranchées en l'espace de 3 semaines. Ouais. Ils refont. Ouais.
Ils ont commencé, parce qu'en fait, Nouvelle arrive avec un rendement qui est à 50%, extrêmement bas, extrêmement bas. Ça veut dire que quasiment la moitié de l'eau part dans les fuites. Mmh. C'est-à-dire que l'eau, il faut bien comprendre que la régie publique achète l'eau au SBL, et donc nous, on est toujours au SBL, au syndicat, qui nous intéresse en termes de producteur d'eau potable. Donc on achète l'eau, mais entre le moment où on achète l'eau, au moment où elle arrive au robinet, ils s'en perdent la moitié. Donc pour la régie publique, c'est énorme. Et donc la régie publique de l'eau en ce moment, en termes d'investissement, a énormément investi à l'occasion de la ligne 5 de tramway sur une commune. Ils ont refait tous les réseaux et du coup le rendement sur la ville de Montpellier s'est énormément amélioré du fait de tous ces gros travaux qui ont été faits. Et donc maintenant, je crois que Murviel, on va vraiment être l'une des plus de la régie. Donc on peut se satisfaire. Et là, ça montre qu'on a bien fait.
C'est ce qu'on avait vu avec la régie hein, quand on avait fait le passage. Bon, on avait les chiffres.
Passé, hein.
On avait vu. Et effectivement, quand on sait que la France, enfin au niveau de. En France, on demande à peu près d'être autour de 80% de rendement. C'est ce qu'il y a sur Montpellier, c'est ce qu'il y a sur les communes qui. Où les réseaux sont suivis et soutenus, on voit bien que Muriel avait été un petit peu de ce côté-là délaissé et qu'il y a un peu d'investissement. Mais ça, la régie de l'eau le savait dès le départ, puisqu'elle avait tous les chiffres. Et quand ils ont accepté, ils savaient déjà.
Le plan climat et énergie territoire de la métropole, les objectifs, c'est 85% de la métropole, horizon 2030.
Oui,
mais voilà. On approche.
Oui, sur l'eau, il y a beaucoup de travail, il faut continuer.
Alors, après, pour les contrôles, ce qui est intéressant, c'est la Meuviel, en intégrant la régie publique, on vient avec des. Ça, c'est, par contre, c'était quelque chose que la régie n'avait pas en fait, mais que l'ASBL avait fait, c'est qu'on a les compteurs communicants sur l'eau. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'ils ont un suivi, ils peuvent vraiment décliner sans. À la protection des données individuelles, mais on peut avoir des statistiques quand même, grosso modo, quelle est la proportion de population qui consomme plus de temps. On a une analyse, on va dire, statistique de ce qui se passe sur la commune. Par contre, tu ne peux pas aller contrôler chez les gens. Par contre, ce que peut faire la police de l'eau, c'est contrôler si les personnes respectent bien les arrêtés, c'est-à-dire ne pas arroser de 8h du matin à 8h du soir, ne pas remplir sa piscine de 8h du matin.
Comment ils peuvent savoir ça?
Le compteur,
sur le compteur.
Il y a deux choses.
Alors, c'est difficile, là, tu ne peux pas aller vérifier le compteur sans qu'il soit là. Non, mais souvent, les contrôles, ils s'imitent à partir du moment où c'est de l'aspersion, ou s'ils voient qu'il y a.
C'est vu de l'espace public, C'est vu de l'espace public.
Oui,
c'est limité,
comme
contrôle.
Oui, c'est très.
Là-dessus, on est.
Moi, je trouve que la.
C'est pas facile à contrôler.
Consciente de la mesure du problème, quoi.
Mmh. Ah, je suis d'accord avec toi.
On est entièrement d'accord. C'est que les gens, il y a un paradoxe. Quand on va leur couper l'eau, ils vont dire « Ah, on nous coupe l'eau, mais d'un autre côté, comment tu as utilisé ton eau avant?
Oui, mais c'est pour ça que je me demande comment est fait l'information des gens et comment c'est contrôlé. Parce que si à un moment il y a des gens qui font n'importe quoi, ils précipitent tout le monde dans la merde. Enfin, désolé, mais du coup, ils ont une responsabilité et on ne fait rien en fait. On ne contrôle rien.
Ce qu'on cherche déjà, c'est à éviter les aberrations ultimes comme un arrosé en plein après-midi, en pleine chaleur. Ça, ça faut pas le tolérer. Ça, c'est...
Ouais,
mais ça existe, vois, ça existe.
Quels sont les moyens de rétorsion?
Là, c'est non-respect d'un arrêté préfectoral, c'est 4. Tribunal de police.
Enfin, c'est pas pire de, tu vois, d'arroser son potager que de prendre un bain, en fait. Tu vois. Enfin, je sais pas, moi il y a des usages que je trouve complètement excessifs.
On a arrosé en plein jour, on va en débattre, mais c'est vrai que
on dit qu'on doit se laver. Ben, on doit se laver, oui, mais il y a des gens qui prennent des bains tous les jours. Pour moi, c'est aberrant.
Il y a le prix de l'eau. Alors là, c'est là où c'est intéressant d'avoir rejoint la régie
publique. C'est ça, ils ont mis en place quand même le système.
Les 12 premiers mètres cubes.
Voilà.
15. Et puis ensuite, plus on consomme,
voilà, je pense que là ça va. Les gens vont être un peu sensibilisés avec le porte-monnaie.
Les finances, c'est-à-dire que les 15 premiers mètres cubes sont gratuits à la régie. Maintenant qu'on est passé à la régie. Parce qu'on estime qu'il y a un besoin humain de base.
Oui, alors,
et après, plus tu consommes, plus tu vas payer le litre d'eau.
Jusqu'à 120, tu as un tarif qui est totalement raisonnable. Jusqu'à 120 mètres cubes, c'est l'utilisation moyenne de foyer français. Jusqu'à 120, on est bon. Et après, par tranche, ça augmente et ça augmente très sévèrement. Et ceux qui sont au-dessus de 200, 240 même, je peux t'assurer que
ça ne va pas payer la facture. 150.
On essaiera d'avoir un chiffre si tu veux.
120 mètres cubes à l'année pour le point de foyer.
Ce qui est dommage, c'est qu'il ne faut pas faire trop d'enfants. Une famille avec 4 enfants, oui. Donc, en plus d'eau, c'est plus cher que
ça. Ça peut aller très très loin.
Il dans son
jardin. Mais... Oui, il faut non, mais
je vois,
il n'y a pas de solution.
Effectivement, c'est peut-être pas le lieu du débat.
Une personne. Bon, et s'il vous plaît, ils ont calculé, la régie publique, c'est pas si antisocial que ça. Ils ont été voir quelles étaient les familles nombreuses qui consommaient vraiment beaucoup d'eau au-delà des seuils qui des 120 mètres cubes, il n'y en a quasiment pas. Parce que ces familles qui sont là où il y a des grosses consommations, c'est les piscines, c'est les jardins.
Ouais.
Or, les familles socialement
c'est que de l'eau
avec des revenus bas n'ont pas de piscine et n'ont pas de jardin. Donc le croisement forte consommation d'eau et familles nombreuses avec des petits revenus, ça se compte, il y en a très très peu.
Il faut avouer que c'est quand même plus logique qu'on paye l'eau en fonction du nombre d'utilisateurs. On n'arrête plus à gérer.
C'est pareil pour les déchets. Non mais c'est pareil pour les déchets.
Alors comment tu suis? On va pas oser le débat, mais.
Il y a l'air de l'informatique
maintenant. C'est absolument
impossible. Ils ne le savent même pas dans les services sociaux parce qu'il y en a qui se déclarent seuls, l'autre qui se déclare avec en fonction d'eux.
Bah c'est comme les déchets. Avoir...
Non, mais ça, c'est un grand débat. Mais tu
que tu sois pas deux, si tu payes la même chose.
Tu peux pas.
Et en fait. Mais en fait, tu ne peux pas parce que la RGPD t'interdit strictement de faire ça. Que la régie publique nous expliquait parce qu'on a. Je suis dans le conseil d'administration. C'est un gros sujet. Mais ils ont fait par contre les estimations en termes statistiques et le profil que tu décris, il est quasiment inexistant. C'est-à-dire des personnes qui consomment beaucoup au-delà de la moyenne nationale, qu'est-ce que je veux dire, et qui, donc dans les montants, et qui seraient exactement modestes.
Je crois que je vais prendre ça.
Du fait qu'ils auraient beaucoup de personnes.
C'est pas très compliqué
de passer par là.
Non,
mais
je vais prendre ça.
Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette question tragique, enfin vraiment extrêmement cruciale de l'eau? Par contre, moi, je me pose une petite question, c'est si vraiment on avait une coupure d'eau, imaginons un mondial.
Bon, on va utiliser du plastique.
Le SBN n'est plus assez d'eau. On a des forages, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait potentiellement tout une DUP sur les forages, approvisionner
une forage végétale.
Okay. Il y a un forage avec une DUP eau potable sur.
C'est de la super bonne.
C'est de la très bonne.
Le risque que l'SBL Monceau existe. Je crois savoir qu'on a de l'eau du Rhône quand même qui alimente.
Alors, il y a de l'eau du Rhône.
Il y a de l'eau
potable. Par Rhône, ouais.
Ils ont des forages, ils en ont beaucoup. Le plus beau étant à Florensac, mais ce n'est pas le seul. Il y a celui de Pignan.
Par rapport à notre commune, on est quand même.
Et ils récupèrent aussi dans les Rhônes, ils en récupèrent une partie. En termes de ressources, pour l'instant, le SBL n'a pas de soucis.
Ça n'a rien à voir avec une commune qui n'a qu'un forage sur sa commune pour alimenter toute sa population. Il y en a
encore. Le problème qu'ils ont, c'est plus ce besoin agricole aujourd'hui.
Bien. Est-ce qu'il y avait d'autres observations, sinon ? Question de l'eau. Sinon, je mets aux voix. Donc, d'adhérer à la charte, hein, respecter les engagements, bien entendu, désigner Gilles Cousin comme le fait en haut. Ah, et un suppléant, je l'ai vu. Donc, on peut proposer Dominique, Dominique Paris. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Moi, je m'abstiens.
Ah oui, mais pour moi. Désigner, oui. Adopté. Donc je continue. Décidément, c'est moi qui référent déontologue par les conseils municipaux. Alors là, c'est. Donc c'est. On demande, hein, le niveau national, de désigner un référent déontologue. Parce qu'en fait, tout élu local doit pouvoir consulter un référent déontologue s'il a besoin de conseils. Sur des questions de déontologie des élus. Et donc, les référents déontologues, pour être référent déontologue, il faut être un expert en déontologie en matière. Et donc, du coup, vu que c'est une obligation, les collectivités se tournent vers des centres un peu des organismes experts pour pouvoir assurer ce conseil déontologique. Et donc, on doit désigner, nous, le conseil municipal doit donc désigner ce référent déontologique. Déontologue. Et donc, apparemment, c'est le, un peu partout en France, hein, c'est le centre de formation des maires et des élus locaux qui s'est proposé pour être ce qui propose aux collectivités de les adopter comme référents et donc d'adhérer de ce fait à un service commun du collège des référents déontologues qui a été mis en place. Donc afin que chaque élu puisse saisir un référent déontologue issu de ce collège dans le respect du secret professionnel et à hauteur des frais de gestion du service. Donc je crois que le tarif est mis, c'est-à-dire que si on le saisit, si un élu ici souhaite saisir ce référent déontologue, parce qu'il se pose des questions sur sa pratique ou sa pratique, il a été fixé donc, par arrêté du CF, au sein du CFMEL, à 120 euros pour dossier traité par un référent déontologue et 250 euros pour avis du collège.
C'est-à-dire que si on ne les sollicite pas, il y a zéro.
Ah non, on ne paye rien. Oui.
C'est par dossier.
C'est des saisines. C'est des saisines.
Et puis on fait l'adhésion.
Voilà, c'est exactement ça. Mais vous devez, messieurs, mesdames,
pouvoir
bénéficier d'un référent déontologue au cas où vous éprouveriez le besoin
d'avoir
un avis ou un conseil. Et donc la délibération, ça consiste à désigner le collège des référents déontologues du CFMEL comme référent et d'adhérer à ce service.
C'est nouveau ça.
Oui, c'est nouveau, mais c'est nous devons d'avoir un référent déontologue. Je pense que ça peut se poser dans toutes les communes.
Ah ben, oui.
Les questions déontologiques peuvent se poser même à des petites échelles. Et on voit que cette déontologie, on l'a vu dans des communes toutes voisines.
Petit souci quand même.
Donc c'est vrai que ça peut survenir n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des questions ? Une observation, Laurence ? Vous voulez faire une observation ?
Non. Je me disais que il y avait certainement être au sein de la préfecture des personnes qui pouvaient avoir ce rôle si on avait un souci particulier.
Il y a une séparation des pouvoirs.
Ouais.
Ce serait compliqué.
Ah, ce serait compliqué. Ah,
oui, c'est vrai. Pour ça, l'exécutif, il doit intervenir sur la
Il faut un tiers de confiance. Il y a de plus en plus de corruption pour maintenant qu'ils mettent un truc en place ou quoi.
Bon, je serais curieuse de connaître après le rapport d'activité du collège des référents de l'entreprise. Je pense qu'il y a un collège par département. C'est au niveau national. Est-ce qu'il y a des observations sur cette affaire? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, je continue du coup, parce que Séverine n'est pas.
C'est vraiment pas de chance. Ça.
Donc là, c'est l'actualisation du tableau des effectifs. C'est parce qu'en fait, il y a pas mal d'agents, il y a certains agents, en tout cas fonctionnaires, qui ont aujourd'hui certains grades et qui peuvent, du fait de leur ancienneté, passer au grade au-dessus. D'accord ? Notamment passer de adjoint d'animation à adjoint d'animation principale, par exemple. Ou adjoint administratif principal deuxième classe à adjoint administratif première classe. Donc, ça, ils ont ces possibilités-là, du fait de leur ancienneté, des références, etc. Voilà, et on en a discuté en bureau, là, et avec les élus qui sont un peu responsables de... Alors, si un agent n'est pas promu, je dirais, cette année, il peut l'être aussi... Là, ils sont promouvables dès cette année, mais on n'est pas obligé de les promouvoir tout de suite, dès la première année. Ils peuvent être promouvables l'année suivante, etc. Donc là, ceux qu'on propose à promouvoir dès cette année. Donc en fait, ça concerne 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Donc en délibération, on ne peut pas donner les noms des personnes. En fait, on modifie le tableau des effectifs. C'est-à-dire on crée les postes au tableau des effectifs qui permettent ensuite de les mettre sur ces postes. Par la promotion, et on supprime les postes sur lesquels ils étaient. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'il y a deux emplois d'adjoint d'animation. C'est quatre, en fait. Oui, ça c'est bon. Ça.
C'est quoi la première classe?
Mais si, si, on a dit que
c'est
si,
bon.
Si, si, c'est bon. Ah, non, c'est bon. Non. Donc, il y a deux emplois d'adjoints d'animation qui deviennent des adjoints d'animation, je ne me trompe pas, principal, deuxième classe. Il y a un adjoint administratif principal, deuxième classe, qui passe en première classe. Et puis, ils sont deux. Donc ça, c'est l'administration. Et dans les services techniques, il y en a deux qui étaient adjoint technique principal, deuxième classe. Enfin, un qui était deuxième classe, qui passe première classe. Et un adjoint territorial du patrimoine. Non, donc il y en a un au service technique, pardon. Et l'adjoint d'un territorial du patrimoine...
Il est en deuxième classe, il passe en première classe.
Voilà, on y arrive.
Les deux premiers.
Il y a deux agents qui étaient promouvables cette année et qu'on propose d'attendre l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des... On ne peut pas dire non, des libérations. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. C'était encore Séverine pour l'athlète. Vous avez beaucoup entendu ce soir. Le rapport de la CLEC. En fait, ça n'a aucune incidence financière pour Murviel. Vous savez qu'on doit certaines communes, pour certains sujets techniques très particuliers, demandent à modifier leur attribution de compensation. Et donc, il y a eu quelques communes, je pourrais vous les citer, si vraiment vous voulez savoir, qui ont fait demander des modifications de leur attribution. C'est Cournon Sec, Cournon Terral, qui qui demande une diminution de 4 000 euros. La Vérune, 1 000 sur 615 000, hein, une augmentation de 1 000 euros. La ville de Montpellier, sur 34 millions d'attribution de compensation, qui a une augmentation de 450 000. Saint-Jean-de-Védas et Saint-Dré-Séry, 695 euros. Saint-Jean-de-Védas, 100 000 sur 853 000. Là, c'est un gros sur Saint-Jean-de-Védas. En tout cas, voilà, ce sont des communes qui ont, pour des raisons diverses et variées, hein, revu leur attribution. Mais comme on l'a déjà fait une fois ici, toutes les 31 communes de la métropole doivent adopter tout le tableau, même si elles ne sont pas concernées directement. Est-ce que vous voulez on va essayer de trouver les explications, si vous les voulez, mais ça va être un peu ardu. En tout cas, à Murviel, il n'y a rien qui change.
Il peut y avoir peut-être une partie en fonction du dernier recensement. Ça peut modifier.
Je ne vois pas quelle compétence. Non. Parce que la voirie, c'était figé. Non, alors après, des fois, ils refont des calculs en fonction des emprunts. Il y a eu des savants calculs qui ont pu être faits dans certaines collectivités. On a, je ne vous cache pas qu'on n'a pas tout détaillé. Ouais. Si Séverine était là, peut-être qu'elle pourrait nous
dire. Pour rappeler notre attribution.
Alors nous
75.
Alors, il y a fonctionnement et investissement. Oui. Nous, en... c'est quoi là?
C'est fonctionnement.
Fonctionnement, Murviel, on est à 112 476. Et en investissement, de mémoire, on est à 74 000.
On avait modifié l'équilibre entre fonctionnement.
On avait basculé au départ, il n'y avait d'attribution de compensation qu'en investissement.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, voilà pourquoi il peut y avoir aussi des modifications. Oui, c'est qu'on avait plusieurs choix à faire. Soit on basculait tout ce qui correspondait aux ex-investissements de fonctionnement d'investissement, soit une quote part. Enfin, il y a des choix différents et des communes, je sais, ont pu faire des choix différents par rapport aux équilibres qu'elles voulaient avoir entre investissement et fonctionnement.
Ça voulait réduire le budget de fonctionnement en
début. Voilà, et nous, comme on voulait alléger notre budget de fonctionnement, qui on n'était pas bien, on avait choisi de tout virer ce qui concernait l'investissement en investissement. Donc c'est peut-être des opérations comme ça qui font qu'il y a des modifications dans certaines communes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me vois, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité, le conseil municipal est terminé. Nous pouvons clore le conseil. Merci à tous.
Ouais.